au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Virginia Crespo.
Canal Académie reçoit Bruno Doucet. Bonjour.
Bonjour.
Bruno Doucet, vous avez précisé, lorsqu'on m'a demandé en 2003 de prendre la direction des éditions Segers, j'avais un désir, celui de rééditer le grand livre de Pierre Segers, La Résistance et ses poètes. Ce livre a été un déclencheur pour moi, comme pour beaucoup de personnes, de ma conscience poétique, de ma conscience politique. C'est les éditions Segers dont vous avez pris la direction pendant combien d'années ?
Pendant 7 ans.
Pendant 7 ans. Ces éditions Segers, vous en revendiquez la filiation en quelque sorte et votre construction poétique quelque part ?
Oui, absolument. Je ne les dirige plus aujourd'hui. Bon, la situation l'a voulu ainsi, mais je reste profondément attaché à l'homme que fut Pierre Segers. Je me sens, presque au sens sociologique du terme, un héritier, si vous voulez, de cette conception de la poésie. Et je poursuis à ma manière, sous mon propre nom cette fois, le voyage que j'avais entrepris au sein du bateau Segers.
On peut souligner que Pierre Segers, puisque nous sommes à l'Institut de France, avait été couronné justement.
Oui, absolument. Absolument.
Rappelez-nous dans quelles circonstances.
Écoutez, il a obtenu le prix de l'Académie française.
Et nous aurons l'occasion d'en reparler
absolument.
Au cours de cette année
absolument.
2011.
Oui, puisque nous préparons une grande exposition Pierre Segers qui se tiendra au Musée du Montparnasse en partenariat avec l'IMEC. Je travaille actuellement sur le catalogue de cette exposition, mais je viendrai vous en reparler bientôt.
Les éditions Bruno Doucet viennent de naître.
Oui.
Racontez-nous cette création, cette naissance.
Mais écoutez, en réalité, la création s'est faite au mois de juin 2010. J'ai créé une entreprise qui porte mon nom, les éditions Bruno Doucet, mais en réalité, derrière ce nom, c'est tout un collectif de gens très compétents qui m'aident, voilà, à organiser finalement des voyages en poésie. Parce que pour moi, la poésie est un voyage. Voyage autour du monde, mais aussi voyage dans le temps. Je viens par exemple de faire un bond de 50 ans, 60 ans en arrière, en rassemblant, nous y revenons, les poèmes de la Résistance, écrits pendant la Résistance par Pierre Segers. Voilà, nous l'avons intitulé « Comme une main qui se referme ». Poème de la Résistance 1939-1945. Ça, c'est un voyage dans le temps. Mais lorsque je publie le poète irakien Salah Hamdani, James Noel, poète haïtien, la poétesse syrienne Maham Al-Masri, eh bien, ce sont des voyages dans l'espace.
Alors, pour les auditeurs de Canal Académie, quel est le premier ouvrage qui ait vu le jour sous l'intitulé des éditions Bruno Doucet ?
Alors, Le balayeur du désert de Salah Hamdani, le poète irakien. Mais en même temps, dans les jours qui ont suivi, 3 autres livres sont parus. « Cette guêpe me regarde de travers » d'Oscar Mandel. « Des points chauffés à blanc » d'un jeune poète haïtien, James Noel. Et « Jeannine Baude », une voix de la poésie française que j'avais déjà publiée chez Segers, avec un recueil intitulé « Juste une pierre noire ».
Canal Académie aura le plaisir de faire entendre à ses auditeurs les voix de ces différents poètes édités par les éditions Bruno Doucet dans l'une de ses séries à voix lue.
Oui, je vous en remercie.
Donc, vous avez préféré éditer toute une série de recueils qui couvrent
une centaine de pages.
Une centaine de pages chacun.
Oui, oui. Avec un travail, je pense, des livres bien ouvragés, un cahier cousu, des couvertures avec des rabats, une identité graphique sur laquelle nous avons beaucoup travaillé, très particulière puisque nous avons décidé de travailler sur un tramage en diagonale. Je pense que nous sommes les seuls éditeurs en France à travailler ainsi, avec un tramage en bi ou en quadricromie, en diagonale. Et cela donne une identité immédiatement repérable. Et puisque, en quelque manière, on m'a fait prendre la tangente des éditions Segers, eh bien, je l'assume. Et certains me disent, mais cette diagonale, c'est la diagonale du fou. Eh bien oui, il faut être un peu fou pour lancer une maison d'édition exclusivement voué à la poésie dans une période de crise. Et ma foi, pour l'instant, cela nous sourit plutôt.
Cette poésie, comment est-ce que vous la vivez, la ressentez, la comprenez ? Comment voulez-vous la transmettre à travers les éditions Bruno Doucet ?
Écoutez, moi je suis de ceux qui considèrent que la poésie est essentielle à l'homme, qu'elle peut même parfois répondre à une urgence vitale, et que les civilisations, les sociétés privées de poètes sont des sociétés qui disparaissent. Pour toutes sortes de raisons, mais on le voit, il suffit de regarder le monde autour de nous. La première chose que les dictateurs font d'ailleurs, lorsqu'ils prennent le pouvoir, c'est de faire disparaître poètes et ouvrages. Voilà, on le sait. Donc je pense que la poésie est indispensable à l'homme et qu'elle peut aider chacun à mieux vivre. Parce qu'elle assure une transmission de la mémoire, parce qu'elle est une ouverture au monde, parce qu'elle favorise le dialogue entre les êtres, entre les cultures, mais aussi entre les générations. Rien n'est plus beau pour moi que de lire de la poésie devant des enfants qui sont accompagnés de leurs parents, leurs grands-parents, et de voir que, finalement, à l'écoute des textes qui sont lus, chacun construit son propre chemin dans le sens, dans le rythme, mais surtout dans la signification. La poésie n'est pas un message fermé. Ce n'est pas une langue de détention, c'est une langue d'ouverture, au contraire. Et ce qui fonde la poésie, vous le savez, c'est toujours la polysémie du sens, le fait qu'un même poème, un même vers, une même image soit porteuse de plusieurs significations en même temps. Alors cela, c'est formidable.
Auprès de qui, auprès de quels êtres, auprès de quels individus, de quels créateurs allez-vous chercher cette poésie, Bruno Doucet ?
Alors, mon travail consiste à établir une passerelle entre l'auteur et le lecteur. Je vais depuis toujours, je parcours le monde à la rencontre des poètes. Donc, il est pour moi tout naturel de ramener, comme d'autres ramènent de leur voyage, des vêtements, des bijoux, des pierres précieuses, et bien moi je ramène des recueils, je ramène des voix de poètes, et je ramène aussi des amitiés à vie, vous savez. Et puis mon souci, c'est de permettre à ces poètes d'obtenir une audience la plus large possible. Je n'accepte pas le fait que dans un pays qui compte plus de 60 millions d'habitants, et puis bien davantage encore si on ouvre la France aux territoires vastes ensembles francophones de par le monde, eh bien je n'accepte pas le fait que la poésie soit si marginale, économiquement défaillante. Je n'accepte pas que l'on dise « mais oublions la poésie, ça ne se vend pas ». Non, le vent d'ailleurs est en train de tourner et tourne du bon côté. Voyez par exemple le succès d'une manifestation comme le Printemps des Poètes. Cette dernière édition a été somptueuse. Ce sont des centaines, des milliers de manifestations. Le jour du lancement, dans le métro parisien, lorsque Juliette Binoche et d'autres comédiens ont lu des poèmes, il y avait des centaines de personnes qui étaient là. Et bien souvent des gens de passage qui se sont arrêtés, qui ont posé leur sac pour un quart d'heure, pour une demi-heure, et dont les visages témoignaient de l'effet de surprise, de cette espèce de révélation intérieure qu'apporte le poème. Donc c'est cela que je veux faire. Je veux simplement être un passeur d'émotions, de culture, de mémoire, par la poésie. Et je suis au fond poète et éditeur de poètes. Alors vous savez, c'est un peu la même chose, c'est la même part d'engagement et le même rapport au monde.
Un éditeur, c'est un chercheur ?
C'est un chercheur, c'est un découvreur, bien entendu. Lorsque je publie le premier recueil de Stéphane Bataillon, un jeune garçon de 30 ans, voilà, je sais que je ne me trompe pas, ni sur la valeur de l'homme, ni sur la qualité de ses textes. Et je suis très fier d'être effectivement son premier éditeur.
Outre-mer, trois océans en poésie. C'est une création de cette année ?
Oui, c'est un livre qui est paru au tout début du mois de février 2011, à l'occasion du Printemps des Poètes 2011, dont le thème était d'infinis paysages. Alors, il s'agit là, bien entendu, des infinis paysages de l'outre-mer, des contrées ultramarines françaises. Et puis, ce livre paraît aussi à l'occasion de l'année 2011 des Outre-mer. Donc, mais ce n'est pas un livre de circonstance, pour autant. C'est plutôt, je dirais, un livre de référence, puisque aucun éditeur ne l'avait fait. Personne, c'est étrange, vous savez, personne n'avait jamais songé à faire le tour des territoires d'outre-mer.
Via la poésie.
Mais via la poésie, jamais. Ça ne s'est jamais fait, même pas une revue. Et donc j'ai entrepris ce voyage autour du monde, à travers les océans, l'Atlantique, l'océan Indien, le Pacifique. Voilà, j'ai été obligé d'écarter deux territoires, l'île de Clipperton, au large du Mexique, est une possession française, mais parce que sa démographie n'autorisait pas la découverte d'un poète, puisqu'il n'y a aucun habitant sur l'île de Clipperton, qui est un atoll qui doit faire 6 km², donc 4 km² d'eau. Et puis j'ai laissé également Terra Deli, les terres australes françaises de côté. Mais voilà, c'est par exemple, bien sûr, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, mais aussi Saint-Pierre-et-Miquelon. Et c'est 6000 habitants, mais il y a 3 poètes d'envergure internationale qui figurent dans ce livre. Pour l'océan Indien, c'est la Réunion, terre de résistance et terre de poètes. J'aurais pu faire un livre de 300 pages rien qu'avec la Réunion. Hein. Et puis Mayotte. Et à Mayotte, j'ai découvert des jeunes gens qui écrivent de la poésie de langue française de premier ordre. Et enfin, pour le Pacifique, c'est la Nouvelle-Calédonie, où cohabite une poésie écrite par des gens d'origine européenne, mais aussi une poésie kanak magnifique, Wallis et Futuna, et puis la Polynésie française.
Et comment ces créateurs se font connaître auprès de vous ? Vous avez accumulé les contacts, les découvertes au cours de toutes ces dernières années. Mais comment les jeunes talents en poésie peuvent se faire connaître, se signaler auprès de vous ? Comment ça se passe ?
Écoutez, le voyage y est pour beaucoup. Un voyage, par exemple, de quelques semaines en Nouvelle-Calédonie m'a permis de découvrir énormément de poètes, notamment ces poètes kanak, mais au-delà, parce que lorsque j'étais en Nouvelle-Calédonie, j'avais accès à des publications, parfois vraiment très restreintes en termes de tirage, mais qui m'ont permis de lire des auteurs venant de Wallis ou de Futuna ou de Polynésie française. Et puis après, vous savez, il suffit de tisser des liens, de garder la relation avec les libraires, d'entretenir une relation, notamment par Internet, qui facilite beaucoup les choses, avec ces poètes. Et puis, c'est un enrichissement qui se fait au fil des années.
Les poètes se connaissent entre eux ?
Je pense que ces territoires ne se connaissent pas entre eux. Et d'ailleurs, qu'est-ce que l'outre-mer ? Pour nous, vu de France, de métropole, c'est très simple à définir, mais qu'est-ce que l'outre-mer pour quelqu'un qui vit à Mayotte ? Pour quelqu'un qui est à Wallis ou Futuna ? Où est l'outre-mer ? Où est l'autre ? Qu'est-ce que l'autre ? Je crois que ce que nous dit ce livre, c'est que Paris, la France, ne sont pas évidemment pas le centre du monde. Pour la bonne et simple raison, c'est que le monde n'a pas de centre. Ou alors, il faut admettre qu'il y a autant de centres sur cette terre que d'individus ou de territoires ou de pays, voyez ? Donc je pense que la poésie nous permet de faire ce pas de côté pour regarder le monde autrement, pour le comprendre autrement. D'ailleurs, ce livre s'ouvre sur une carte et nous avons choisi volontairement une projection de Peters et non pas une projection classique de Mercator qui place la France au cœur de la planisphère, obligeant d'ailleurs le cartographe à séparer et à placer aux antipodes d'un côté la Polynésie française et de l'autre Wallis et Futuna ou la Nouvelle-Calédonie. Mais nous avons choisi voilà, une autre représentation. La France n'est pas à la marge, occupe une place qui est aisément repérable, mais tout de même, nous percevons les choses un peu autrement.
Nous vous écoutons, Bruno Doucet, dans un poème intitulé « Les volcans de mon île ».
À l'heure où le soleil laisse glisser sa tête dans la mâchoire des agaves, une lionne se jette à l'eau. L'ombre de sa crinière flotte à ses côtés, sa crinière rougeoie comme la mer, sa crinière s'embrase et charme les murènes. Elle offre un abri au silence. Je la regarde, le vent se lève, un arc-en-ciel de passion tropicale ouvre une route à nos émois. Mes racines s'enchevêtrent dans le sol de la véranda. Mes bras se dressent brisant les vitres. L'un d'eux déjà s'allonge vers la rive. Ma lionne ne le regarde pas. Ma lionne nage dans l'eau de feu sans se soucier du monde qui l'entoure. J'attends. La nuit tombée, elle viendra offrir au volcan de mon île son flanc d'argile et de feuillage. Rimbaud disait que, vous connaissez l'expression « je vais être un autre ». Je crois qu'on peut l'entendre ainsi. La poésie est ce qui permet de se penser soi-même comme un autre, d'entrer dans le regard de l'autre. Et c'est exactement ce que ce livre se propose de faire.
Alors vous, justement, qui avez, dans votre écoute, dans votre réflexion maintenant, emmagasiné tant de voix différentes à travers le monde, mais qui ont entrepris la voie poétique, nous sommes tous pareils devant cette expression poétique. Le langage poétique est universel et pratiqué de la même façon par tous, quelles que soient nos cultures, nos us et coutumes différents. Est-ce que la poésie nous rassemble et nous fait nous ressembler ?
Oui, bien sûr, la poésie rassemble. Elle permet aussi, chaque fois que l'on compare deux textes, deux êtres ou même deux objets, comparer, ça ne sert pas seulement à faire émerger des ressemblances, ça sert aussi à faire découvrir des différences, la qualité différentielle d'une chose par rapport à l'autre. Moi, je suis toujours beaucoup plus intéressé par les différences et le respect de ces différences que par la ressemblance ou l'assimilation, vous voyez. Ceci étant dit, je crois que la poésie permet ce raccourci formidable entre les cultures et que tous ces voyages autour du monde qu'elle offre sont une chance pour l'humanité. Le langage est ce qui est propre à l'homme, ce qui fonde notre humanité, c'est notre capacité à dire, à parler, à écrire, à mettre des mots sur ce que nous ressentons, ou à devenir par les mots celui ou celle que nous ne sommes pas encore. C'est cela qui fonde notre humanité. Et de ce point de vue, la poésie n'est jamais qu'une utilisation particulière de la langue, une utilisation pas forcément sublimée. Elle peut être, la poésie peut avoir une dimension extrêmement prosaïque. Mais ce que je crois, c'est que la poésie est un en-deçà et un au-delà du langage. Pourquoi ? Parce que les premières manifestations chez le nouveau-né, chez le tout petit être humain, le baby, l'enfantin, est d'essence poétique, quasi musicale. Les linguistes, les spécialistes de la petite enfance le savent parfaitement. Ce sont des émotions qui poussent, ou des besoins qui poussent le petit être à s'exprimer et à babiller. Donc nous sommes là déjà dans une poésie qui ne dit pas son nom, mais qui est bien réelle. Et puis, chez la personne qui va disparaître, à l'autre terme de la vie, et qui peut parfois aspirer à un autre dialogue avec l'invisible. Je pense notamment à tous les êtres qui sont épris de spiritualité, qui vont chercher dans la prière, par exemple, une manière de passer du visible à l'invisible. Nous sommes là aussi, évidemment, dans une expérience poétique. Donc je crois que la poésie, c'est cela, c'est cette possibilité d'un passage sur une autre rive du sens, la possibilité d'un passage, d'un lien vers l'invisible, vers l'inconnu, l'acceptation du mystère de l'existence. Voilà.
La poésie utilise les mots différemment et les place sur un plan différent que celui de notre quotidienneté ?
Oui, ça c'est une question qui est assez difficile. Où commence la poésie ? Où commence-t-elle ? Je crois que nous sommes ou que nous ne sommes pas en état de poésie. Et que cet état de poésie peut être aussi bien celui du lecteur que celui de l'auteur, du poète. À ce moment même où je vous parle, je ne suis pas nécessairement en état de poésie. Je suis poète. Peut-être demain écrirai-je un texte, serai-je comme traversé par le langage. Pour l'instant, je ne le suis pas, je suis dans une autre parole. Peut-être serai-je en état de poésie en écoutant le poème d'un autre. Il me semble que cela passe par l'émotion partagée, bien entendu. Mais aussi par cette infinie possibilité du sens qu'offre le poème. Je crois que la poésie, c'est d'abord un langage qui laisse entendre ce que les mots ne disent pas, ce qui est en creux dans les mots. En ce moment, j'essaie d'être aussi précis que possible. Mais avec, par exemple, les métaphores, nous ne sommes pas dans la précision. Je ne cherche pas, par une métaphore, à être au plus juste du sens unique, univoque, que je cherche à atteindre, par exemple, en ce moment. C'est tout à fait autre chose. Par la métaphore, j'ouvre un espace de liberté à l'auditeur, au lecteur, à autrui et à moi-même.
Mais est-ce qu'on se dit « je vais écrire un poème » ?
Non, pour moi, c'est impossible. Je suis obligé de le dire, j'ai écrit d'assez nombreux livres, des essais, des romans, des ouvrages de réflexion. Je peux, même pour un roman, me mettre à ma table de travail très régulièrement. Ça ne veut pas dire que je serai bon tous les jours. Il y a peut-être des matinées de travail qui mériteront de partir à la corbeille. Mais je peux me mettre au travail régulièrement, avoir un plan de travail, des projets d'écriture. Pour la poésie, en ce qui me concerne, c'est impossible. C'est impossible. C'est elle qui choisit. Avec la poésie, c'est comme si j'avais rendez-vous avec une femme ou un ami, sans savoir s'il viendra. Vraiment, je vous assure, je ne sais pas si ce rendez-vous sera honoré. Et la plupart du temps, ce rendez-vous, parfois souvent, ce rendez-vous ne l'est pas. J'attends. Mais je suis souvent en situation d'attente du texte poétique. Je pourrais prendre une autre image pour dire cela. La poésie est comme une eau qui se trouve à la surface de la terre et qui, tout à coup, disparaît. Elle se perd, elle entre dans les fissures à peine dissimulées de la roche ou du sable. Elle disparaît. Pour suivre un cours invisible, je ne la vois plus, je la cherche, je ne la trouve pas. Et parfois, ma vie, comme celle de beaucoup d'êtres humains, je crois, ça sèche, devient plus aride, plus difficile. Mais l'eau est quelque part. Et lorsqu'elle remonte, sa fraîcheur m'étonne, sa transparence est formidable. Sa transparence porte le rire aux lèvres. Et puis son murmure vont tout à coup faire chanter la vie. Donc tout le travail, je crois, du poète consiste à permettre à l'eau que l'on croyait perdue de remonter. Je pense cela profondément, je le ressens même quasiment physiquement. Et voilà, Baudelaire comparait le poète à un albatros. Vous savez, splendide dans les airs, mais incapable de marcher sur le sol. Moi, je le comparais plutôt à cet arbre du désert, tout racorni en surface. L'arbre du Ténéré, par exemple, faisait peut-être 2 mètres de hauteur avant qu'il ne soit brisé par un camion libyen en 1974. Il avait 2000 ans, dit-on. Tout racorni en surface, épineux, enfin bon, semblant inadapté à la vie, mais ses racines allaient chercher l'eau à 40 mètres de profondeur. Donc pour moi, c'est cela, la poésie. C'est ce dialogue aussi avec les profondeurs de l'être humain et cette capacité à aller chercher l'eau essentielle à la vie, là où elle se trouve.
Est-ce que cet état que vous nous décriviez, est-ce que cette façon de ressentir ces émotions, les poètes les communiquent entre eux, ou est-ce que ce sont des choses qui sont vécues pudiquement et de façon personnelle, avec des difficultés à mettre des mots sur des sensations, des émotions, telles que vous nous les décriviez il y a un instant?
Oui, je crois que l'expérience poétique, sans doute, est-elle propre à chacun, et chacun peut avoir sa manière de la définir. Mais il me semble que de nombreux poètes ont exprimé ou tenté d'exprimer ce que je viens moi-même d'essayer de dire. Les images empruntées peuvent être différentes, mais quand même, je crois que ce sentiment d'être traversé par l'écriture, d'être des êtres sans frontières, poreux, probablement un peu dépassé par une écriture qui est à la fois en amont et en aval, qui a sa part de mystère. Ça, je crois que beaucoup le disent. En tout cas, c'est cela qui m'intéresse. J'aime le retrouver dans la poésie des autres. Probablement pour cela que je suis devenu éditeur. Et bien entendu, dans ce dialogue avec les autres, je tente aussi d'obtenir des réponses à mes propres questionnements.
Terre de femmes, 150 ans de poésie féminine en Haïti. Pourquoi avez-vous eu l'envie et le projet de faire paraître cet ouvrage dans vos éditions?
Alors, ce livre est paru en octobre 2010 et je dois dire que l'envie d'écrire remonte à plusieurs années. Lorsque je dirigeais les éditions Segers, j'ai eu la grande joie de pouvoir rassembler toute l'œuvre poétique d'un immense poète haïtien, René de Pestre. Et lorsque je lisais la poésie de René de Pestre, cette poésie si belle, cet érotisme solaire, ces chants d'amour adressés aux femmes, je me disais, il parle merveilleusement des femmes, mais qu'en est-il des femmes en Haïti? Écrivent-elles de la poésie? Et je n'en connaissais alors quasiment aucune. Donc j'ai décidé de partir à la rencontre de ces femmes poètes en Haïti ou dans la diaspora, au Canada, aux États-Unis ou en France, d'aller à leur rencontre et de voir ce que pouvait représenter la poésie pour celles dont on dit qu'elles sont le poteau mitant, l'expression je crois est claire, le poteau mitant de la société haïtienne. Et puis le tremblement de terre du 12 janvier 2009, mais aussi les prix littéraires qui ont couronné des écrivains haïtiens ont semblé toujours mettre en évidence une littérature masculine. Et je dois dire qu'à ce moment-là, ça a vraiment décuplé mon désir de terminer ce livre que j'avais déjà commencé. Voilà, donc j'ai d'abord effectué un inventaire, un recensement, disons, des femmes qui ont publié de la poésie depuis ses origines, c'est-à-dire au milieu du XIXe siècle, jusqu'à la période la plus contemporaine, puisque dans cette anthologie figurent de très jeunes femmes qui sont nées après la dictature des Duvaliers, c'est-à-dire nées après 85-86. Ce sont au fond les voix émergentes de cette poésie. Et à travers ces 150 années de poésie féminine en Haïti, eh bien nous parcourons plus d'un siècle d'engagement féminin et féministe parce que c'est une manière aussi de lire l'histoire du courant féministe. Il y a notamment, dans la première moitié du XXe siècle, des femmes absolument extraordinaires. J'ai été dans la poésie et remarquable. Une chose encore qui m'a beaucoup frappé, c'est que bon nombre de ces femmes, il y en a 35 dans le livre, ont écrit très jeunes leur premier recueil. 15 ans, 17 ans, 20 ans, et parfois une entrée tapageuse en littérature, à Port-au-Prince par exemple, et puis plus rien. Certaines cessent d'écrire définitivement, d'autres reviennent à la poésie ou à la littérature tardivement, au soir de leur vie. Comme si il y avait entre-temps le long passage par les enfants, la vie domestique, la condition de vie des femmes. Ce qui ne veut pas dire pour autant que la poésie est un passe-temps gratuit, comme on peut, je dirais, pratiquer certaines activités d'épanouissement personnel ou aller, voyez, au thé dansant du village le samedi soir. Ça n'a rien à voir. Cette poésie des femmes en Haïti est mue par une urgence, par le besoin de faire entendre sa voix sur la place du monde et de donner voix aux femmes. D'ailleurs, La Voix des Femmes, c'était le nom d'un quotidien qui a publié en Haïti dans les années 50 de très nombreuses, justement, voix de poètes femmes.
Et la poésie revient dans la bouche et sous la main de ces femmes lorsqu'elles se retrouvent elles-mêmes.
Oui, oui.
Lorsqu'elles cessent de donner aux autres pour se retrouver, être en contact avec elles-mêmes et pouvoir dire, se dire.
Oui, absolument. Une universitaire de la Barbade, que j'ai rencontré dans le Mississippi à l'occasion d'un colloque consacré à Jean-Marie Le Clézio, m'a dit « Je suis choqué de voir qu'un éditeur, un intellectuel français éditeur, puisse consacrer une anthologie aux femmes. »
Pourquoi choqué ?
Alors, c'est la question que je lui ai posée. Elle me dit « Mais parce qu'en poésie, il n'y a ni homme ni femme, il est temps d'arrêter d'avoir des positions ainsi, je ne sais pas, sexistes ou discriminantes. » Donc je m'en explique longuement dans la préface et je lui réponds très gentiment, mais en disant au fond que les femmes n'auront pas en littérature la même audience, je ne parle même pas des mêmes droits, mais la même audience que les hommes, tant que les histoires littéraires ou les cours d'université seront assurés par essentiellement, majoritairement par des hommes, tant qu'au fond, la salle des cartes de la littérature haïtienne, la clé de cette salle sera dans la main d'un homme, eh bien les femmes ne seront pas tout à fait du voyage. Et des anthologies de cette nature, sans doute, ne seront pas inutiles.
Vos projets, Bruno Doucet, dans cette nouvelle maison d'édition ?
Eh bien, écoutez, poursuivre d'abord ces voyages multiples en poésie, puisque j'ai publié pour l'heure deux anthologies de près de 300 pages, Terre de femmes et Outre-mer, que nous venons de présenter, je peux déjà annoncer, alors en avant-première, parce que personne ne le sait, que le troisième livre sera une anthologie qui accueillera des poètes, hommes, femmes, venant de tous les horizons du monde, qui viennent de pays non francophones et qui font le choix d'écrire en français, pour des raisons personnelles, politiques, voilà, liées parfois au hasard de la vie. Mais des poètes venus du Moyen-Orient, de pays africains non francophones, des États-Unis, de Suède, du Danemark, de Russie. Voilà.
On ouvre encore plus grandes les portes de la francophonie.
Absolument. En tout cas, je veux que cette maison soit comme... Je veux au fond que ma petite maison d'édition, très modestement, pratique un art de l'hospitalité.
Mais très grand, cet art-là.
Mais écoutez, en tout cas, je voudrais que cela fasse aussi oublier la brutalité du monde dans lequel nous vivons, la brutalité des États, parfois. Et puis, je voudrais aussi saluer tous ces poètes qui, comme Salah Hamdani, qui découvre en prison à Bagdad l'œuvre d'Albert Camus et qui vit une deuxième naissance grâce à Albert Camus et qui va apprendre le français. C'est extraordinaire, c'est magnifique. À l'heure où l'on se plaint du recul de la France dans certaines régions du monde, nous avons là l'opportunité historique de pouvoir accueillir des hommes et des femmes, des écrivains, donc des passeurs de culture, de mémoire, qui font le choix d'écrire dans notre langue. Je trouve ça formidable et j'ai envie, au fond, de les en remercier.
La poésie véhicule pour les adultes ceux qui ont à crier, à dénoncer ou à aimer, à faire aimer, Mais la poésie, langage des enfants et des adolescents, qu'en est-il exactement aujourd'hui? Est-ce que les jeunes ont droit à ce mode d'expression? En ont-ils le besoin? Est-ce que vous vous êtes penché sur cette question?
Oui, je me suis, je crois, pas mal penché sur cette question. J'ai été pendant longtemps professeur de lettres, enseignant, donc en charge de l'enseignement de la poésie. Je me suis rendu compte d'ailleurs à un moment donné, comment vous dire, que j'évitais d'aborder en classe ou d'étudier en classe les auteurs de mon jardin personnel. Les auteurs que j'aimais le plus, contrairement à ce que je faisais au tout début de ma carrière, je cessais de les faire découvrir aux enfants,
pourquoi,
aux adolescents. Mais je me suis posé cette question et j'en suis venu à constater que la manière dont l'enseignement de la poésie était faite ne me satisfaisait pas.
Donc vous ne vouliez pas placer sur cet autel et mutiler
Trop d'analyse. Un peu comme si on demandait aux professeurs de lettres, surtout dans les grandes classes, je veux dire fin des années de collège et puis le lycée ou l'université, de devenir de formidables médecins légistes de l'écriture poétique, parfaitement capables de décortiquer, d'analyser, au fond de faire l'anatomie du texte, mais incapable de lui insuffler la vie, d'en faire sentir la vibration. Donc, moi, je n'ai envie d'abord que de cela, faire sentir la vibration du texte, faire parler le texte. Donc, cela veut dire aussi que souvent, il faut déscolariser l'écriture poétique, la lecture poétique, lui redonner sa place dans la vie quotidienne et pas simplement dans des exercices codifiés qui ont tendance au contraire à détourner les adolescents de la poésie et ne pas rendre le texte poétique intimidant aux yeux du lecteur.
La poésie libre.
Mais oui, je crois que la poésie, c'est la liberté. Donc il ne faut pas couper ses ailes.
Bruno Doucet, merci de toutes ces informations.
Merci.
Et au plaisir de vous accueillir bientôt à l'écoute de Canal Académie.
Avec grand plaisir.
Nous nous quittons maintenant, Bruno Doucet, en vous écoutant dans un poème dont le titre est le suivant. Comme un fleuve.
Je pars. Dans le brasier de ma maison, l'œil est prompt à suivre l'étincelle qui vole à la rencontre de l'obscure promesse du jour. Aucun fleuve de mon pays ne connaît de marée à 1000 kilomètres de l'océan. Mais que l'Atlantique Nord vienne à nous séparer et nous nous retrouvons dans un estuaire où chacun vit le flux et le reflux de l'autre. Je n'étais encore jamais monté à bord du cavalier grand fleuve qui part de Tadoussac à la recherche des baleines. Mais je vis à l'horizon de tes ondulations. Chaque fois qu'une ride en surface révèle un mouvement venu des profondeurs. Les gens de mon pays ne savent rien des grands courants glacés venus du Labrador ni de la migration des animaux marins. Mais je sais d'où je viens lorsqu'un simple frisson te fait craindre l'hiver. Jamais tu n'avais imaginé ce phare, ô fond prince, isolé jour et nuit dans le grand Saint-Laurent depuis 1964. Et pourtant, comme lui, tu protèges ma vie de la vie des courants et d'un second naufrage. Nous ne saurons jamais si les eaux noires du fjord se mêlent à ce fleuve d'eau verte. Mais nous reconnaissons la force de l'alliance
à ce grand brassement qui se fait dans nos vies.
Dans de si vastes fleuves, dans de si vastes fleuves, le monde disparaît à deux pas de la rive pour ne garder du jour que l'ambition du ciel. Mais te vivre et voyage où s'entr'ouvrent tes mains dans l'estuaire du temps. Tu es loin mais les eaux reflètent ton visage. Ton ombre doucement se pose sur mes lèvres et l'aube de tes bras découvre le passage. Tu es loin, mais ta voix ensorcelle mes rêves. Ton absence est la main qui caresse ma joue quand les battants du soir envahissent le jour. Nous venons de si loin, dans ces frasques d'eau vive, ici que rien n'arrête, ailleurs où je me trouve. Aucun de nous ne veut s'en remettre à la rive.